Récemment, j'ai reçu une invitation particulière. C'est une maison d'édition, ou plus exactement une maison de production, qui cherche à donner un titre à un film. Et c'est le titre de, donc c'est un film historique, mais ça va être un réel film que vous pourrez voir dans les salles de cinéma. Et il cherche un titre. Et c'est l'histoire de Maximilien Kolb. Je ne sais pas si vous étiez là, j'ai déjà raconté cette histoire, parce que c'est une histoire vraie et qu'elle est touchante. En tout cas, elle parle de cet homme, Maximilien Kolb. D'ailleurs, ouais, il manque un petit E là au bout. Mais c'était un prêtre catholique qui a été déporté à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il était au milieu des prisonniers. Et un jour, il y a un prisonnier qui s'échappe du camp. C'était très rare, mais quand ça arrivait, on essayait de dissuader les autres prisonniers en prenant 10 prisonniers au hasard et on les enfermait dans un bunker en leur privant de nourriture. Et ils mouraient à coup sûr. Donc vous imaginez ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a le commandant qui a fait aligner tous les prisonniers et puis il a commencé à prendre sa liste et au hasard, et il a désigné. Et là, dans cette liste, il y avait un homme qui avait une femme et des enfants et qui entend son nom qui fait « Non, ma femme, mes enfants !» Et donc, il savait qu'il allait être condamné à mourir. Et dans les rangs, il y avait Maximilien Kolb qui, lui, a entendu le cri de cet homme et puis qui a levé la main, qui a dit « Moi, je veux prendre la place de cet homme !» Il a réalisé qu'il allait perdre ses enfants, son épouse, qu'il avait une famille, et donc il allait rendre heureux cette famille. Et donc, contre toute attente, le commandant a accepté. Et donc, ce jour-là, cet homme a pris la place et il est mort à la place de Francis Gajovnicek. C'était son nom. Je voulais pas le dire, mais je l'ai dit, ça y est. Cet homme est reconnaissant aujourd'hui parce qu'il vient sur la tombe de Maximilien Kolb, qui lui est vraiment décédé. En fait, cet homme n'était pas obligé, il était désigné, pardon, il n'a pas été désigné, il n'a pas été obligé d'y aller, il a fait un choix volontaire de mourir à la place d'un autre. Je trouve que c'est un acte incroyable et ça nous rappelle l'évangile, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que Jésus a fait à la croix, il meurt. Mais cet homme, il est mort et il a sauvé une personne, il a réjoui une famille à un moment précis de l'histoire, dans un lieu précis. Et vous avez vu, j'ai insisté sur le 1. En fait, c'est immense ce qu'il a fait. Personne va dire que ouais, c'était gentil. Non, c'est énorme. C'est énorme. Mais ça reste limité. Ça reste limité. Et aujourd'hui, on va voir, au travers de l'évangile de Luc, un autre homme qui lui aussi a donné sa vie à la place d'autres. Mais nous allons voir que la limite, elle est beaucoup plus grande. Et donc, je vous invite à ceux qui ont leur manuel à le reprendre. On fait une série sur la grande histoire. Et donc, on arrive à la 9e session. Et donc, qui s'intitule L'échec. Ça ne fonctionne pas, alors je ne sais pas si ce sont les piles, mais voilà. J'appuie sur la télécommande, ça ne marche pas, donc si vous pouvez me la changer, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est découvrir la portée de la mort de Jésus-Christ. Et on va lire beaucoup de textes. Et donc, j'ai demandé à Lénie de pouvoir passez le texte, donc vous allez avoir les paroles si vous n'avez pas le manuel, bien sûr. Vous pouvez suivre dans vos Bibles, c'est dans la version Second 21. Et on va lire là, une première fois, le chapitre 23 des versets 1 à 25. Je vais traiter quatre questions qui sont dans le manuel. Et ensuite, on écoutera une autre portion qui sera du verset 32 au verset 56. Donc vous voyez, il y a beaucoup de textes aujourd'hui, mais c'est pour ça que je vous invite à vous concentrer et à écouter.
Et conduisirent Jésus de. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant,
nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur. Il se présente lui-même comme le Messie, le roi.
Pilate lui demanda :
Es-tu le roi des Juifs ?
Tu le dis.
Pilate dit au chef des prêtres et à la foule :
Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner.
Mais ils insistèrent en disant :
Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici.
À ces mots, Pilate demanda si cet homme était Galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya. Car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là.
Le bon, c'est qu'il y a le
lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit :
Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter.
À chaque fête, ils devaient leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble :
Fais mourir celui-ci !
Et relâche-nous, Barabbas !
Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville, et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient :
Crucifie-le ! Crucifie-le !
Pour la troisième fois, Pilate leur dit :
Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après avoir fait fouetter.
Cependant, ils insistaient à grincer, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs et prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre et qu'il réclamait.
Voilà la fin de la lecture de la parole de Dieu. Et donc, comme à notre habitude, on va essayer de répondre aux questions du manuel. Lorsqu'on arrive au chapitre 23, Jésus est trahi par Judas, il va être arrêté par les autorités juives et romaines, et il va être présenté devant les autorités. Et on va l'accuser. Et donc la première question, c'est de quoi Jésus est-il accusé ? Alors on va le voir, vous l'avez lu, entendu, il est accusé de plusieurs choses. La première des accusations, c'est qu'il sème le désordre au travers de la nation. Il soulève le peuple, dit le texte, et donc il est présenté comme un agitateur dangereux. Un Che Guevara des temps anciens. Et pourtant, Jésus n'a jamais commis de révolte. Certes, il attire les foules, mais il cherche jamais à faire le tumulte. Au contraire, il se retire bien souvent pour éviter l'agitation. Et je sais pas si ça vous a jamais intrigué, si vous avez lu les évangiles. À un moment donné, Jésus demande aux gens qui ont reçu un miracle de ne rien dire. Ben c'est parce que justement Jésus ne voulait pas attirer les foules pour juste épater la galerie. Il voulait être discret. Alors pas toujours, mais bien souvent c'était le cas. Et il avait même son plan de sauvetage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il se trouve devant des grandes foules, il disait aux disciples : Préparez une barque. Et si jamais On s'en va si vraiment la foule devient trop pressante. Donc il avait un plan de secours. Donc Jésus, il était vraiment, il n'était pas là pour créer la zizanie au travers de la nation. Et il a une deuxième accusation, c'est qu'il empêche de payer l'impôt à César, comme s'il s'opposait à l'État. Mais en fait, c'est exactement l'inverse que Jésus a fait. Si vous vous souvenez, quand il a dit dans Matthieu 22, 21, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il prend cette pièce de monnaie? Et ça, même les non-chrétiens connaissent cette expression. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, vous devez payer l'impôt à César, payez l'impôt à César. Donc il a jamais dit qu'il fallait pas payer l'impôt. Donc vous voyez, on détournait ce que Jésus faisait. Donc on part d'un fait et hop, on le transforme. Et puis celui-là il est vrai en fait, mais en même temps faux. Il se dit Christ roi, ça c'était une accusation. Et on va dire que la base est vraie, mais en fait elle est déformée une fois de plus, parce que Jésus, dans ses discours, il parle bien souvent de royaume. Hein, et en tant que Messie, il est bien le roi. Mais de quel royaume on parle? Est-ce qu'il parle d'un royaume terrestre, politique? Bien non. Jésus n'a jamais parlé d'un royaume comme ça. Il parle d'un règne, effectivement, mais c'est un règne qui, lui, va avoir lieu dans les cœurs et non pas sur un trône royal à Jérusalem. Vous voyez? Donc Jésus va bâtir un royaume qui est invisible, mais qui est bien réel, c'est qu'il va venir habiter dans nos cœurs. Et ça c'est la réalité du roi. Et si vous êtes chrétien, vous pouvez dire Jésus est mon roi, dans le sens que pas parce qu'il règne à Genève sur la cathédrale Saint-Pierre, c'est pas ça. Non, c'est qu'il règne dans vos cœurs. Et ça, c'est un royaume invisible, mais qui est bien réel. On en voit les fruits. Alors, au final, soit les accusations sont fausses, soit elles sont déformées. Et pourtant. Jésus va être interrogé, examiné, même envoyé vers Hérode Antipas. Et là, encore une fois, aucune faute va être retenue. Que ce soit Pilate ou Hérode, aucun des deux ne trouve de motif valable pour condamner Jésus. Et regardez, c'est vraiment insistant. Le texte et Luc a voulu nous montrer qu'il était innocent. Regardez, 4 reprises, verset 4, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Verset 14, « Je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. » Ni Hérode non plus, au verset 15, « Rien qui mérite la mort n'a été fait par lui. » Verset 22, « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. » Donc vous voyez, c'est vraiment insistant. Luc veut nous montrer que Jésus n'a rien fait de tout ce qu'on l'accuse. Absolument rien. Mais, et ça c'est étrange, c'est que ces deux personnages, qui sont Hérode et Pilate, qui sont des ennemis, comme par hasard, ils vont s'allier. Et là, ils vont devenir copains. Parce qu'en fait, ils ont un intérêt ici. Mais ça, c'est juste de circonstances. C'est une alliance de circonstances. Et on sait très bien que c'est pour qu'ils gardent cette paix. Parce qu'ils voient que les tumultes commencent à gronder, les chefs religieux sont pas contents, ils réclament la mort de Jésus, et eux, comme ils veulent la paix, même s'ils savent très bien que Jésus est innocent, ils l'ont déclaré à 4 reprises, eh bien ils vont négocier avec le peuple. Et donc, il va y avoir un échange horrible entre un gars qui a vraiment commis un meurtre, ou en tout cas une émeute, mais probablement aussi un meurtre, et derrière, il va échanger donc un meurtrier contre Jésus, alors qu'il savait exactement qu'il était innocent. C'est terrible. En tout cas, Jésus est condamné non parce qu'il est coupable, mais parce que les accusations sont instrumentalisées et que même ceux qui reconnaissent son innocence préfèrent s'aligner plutôt que de s'opposer. Et ça nous amène à la deuxième question. Quelles sont les réactions de Jésus lors de son arrestation, de son procès et de sa mise à mort? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus ici? C'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Je l'ai limité à quelques remarques. En fait, ce qui nous marque dans ce chapitre, c'est pas seulement ce que Jésus il a subi, mais comment il a vécu et comment il a réagi. Et on se projette, hein, si nous, on avait été accusés, comment est-ce qu'on aurait réagi? Si nous, on avait été cloués sur une croix, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et on voit que Jésus, c'était pas un homme. En tout cas, pas un homme ordinaire. Parce qu'aucun d'entre nous n'aurait réagi comme il a réagi. Regardez devant Hérode. Hérode lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Devant les accusations des chefs religieux, les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus, et il ne bouge pas, il ne réagit pas. Verset 11, devant les moqueries, qu'est-ce qu'il fait ? Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Et Jésus ne réagit pas. Il reste calme, silencieux, cherche pas à se défendre à tout prix. Et pourtant, Jésus en aurait eu la capacité. Jésus, il savait répondre, il savait reprendre les gens, il savait confondre. On l'a vu à l'œuvre dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, lorsqu'il est dans le temple. On l'a vu agir avec autorité. Il a renversé des tables, il a dénoncé ce qui était faux. Donc Jésus savait parler, il savait agir. Alors pourquoi il ne dit rien ici? Jésus avait la répartie, hein. C'était le meilleur des avocats. Si vous regardez quand il est pris au piège par des chefs religieux qui veulent le coincer, Jésus s'en sort toujours avec panache et il pose juste les bons mots. Donc Jésus avait toute la capacité de le faire, mais il ne fait rien. Et là, c'est vraiment étrange. En fait, c'est pas un manque de réponse. Jésus n'était pas à court d'idées ici. C'est un choix clair. Face à des accusations injustes, il serait quand même légitime de se défendre. Parce que Dieu aime la justice. Et Jésus, il incarne parfaitement de cette justice. Mais ici, Jésus, il accepte de ne pas se justifier. Pourquoi il fait ça? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi Jésus ne dit rien à ce moment-là? Alors qu'à bien des moments, tout au long de son parcours, il a réagi. Pourquoi il ne fait rien à ce moment-là?
Ça ne servait à rien.
Alors, ça ne servait à rien.
Parce qu'ils avaient un but, c'était de le condamner.
C'est ça, c'est surtout qu'il accomplissait ce qui était écrit. Il était en train d'accomplir ce qui était écrit. Et regardez ce qu'on trouve au verset 7 dans Ésaïe 53, un texte qu'on a déjà lu, qu'on a déjà étudié. Et là, ça prend tout son relief. Regardez ce que disait le texte 8 siècles avant Jésus-Christ. 8 siècles avant la venue de Jésus sur terre. Regardez ce qu'il était dit. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Vous voyez d'où ça vient et vous comprenez pourquoi Jésus n'a pas ouvert la bouche? Parce qu'en fait, il était en train d'accomplir cette parole-là. Et il a été effectivement comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, parce que ça a été une vraie boucherie ce jour-là. Qui a regardé le film La Passion du Christ? Il date, hein, ça fait plus de 20 ans. Vous avez vu? Personne d'autre? Alors, je ne vais pas faire de la pub pour ce film, mais si vous voulez vraiment prendre conscience de ce qu'est une crucifixion et de ce que c'est, vous allez regarder ce film. Et vous allez te dire, c'est une vraie boucherie. Lorsque j'ai vu ce film au cinéma, quand il est sorti, il y a des gens dans la salle qui tombaient, littéralement. Ils s'évanouissaient tellement ils étaient devant une horreur, devant un spectacle qui était sanguinolent. C'était violent, mais c'était réel, en fait. C'est ça le pire, c'est que c'était vrai. Et ce qui nous est rapporté dans ce film, ça ressemble vraiment à la réalité. J'ai lu beaucoup d'ouvrages justement sur ce thème de la crucifixion, et quand on regarde le film, on est dedans. Alors peut-être que ça a été exagéré, le texte est assez sobre, mais la réalité, c'est que c'était une boucherie et que Jésus était vraiment un agneau qui a été à la boucherie. Alors, Jésus ne subit pas simplement la situation, il entre volontairement dans ce qui était prévu. Et si on se met à sa place, eh bien c'est déroutant, parce que on aurait envie qu'il parle, qu'il rétablisse la vérité. Hein, si vous avez vu des films où il y a une injustice, on n'a qu'une envie, c'est que dans le dénouement du film, ça se retourne, et puis que le héros sorte victorieux. Eh ben pas là. Là, il n'y a rien qui se passe. Rien. Et ça, c'est déconcertant. Et il y a un sommet qui arrive, c'est au verset 34. Au verset 34, Jésus, il est cloué sur cette croix et il regarde ses bourreaux, il regarde la foule et il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus ne dit pas que ses accusateurs sont innocents, attention, hein. Ils sont responsables. Ils ont rejeté Jésus, ils ont voulu sa mort, ils ont insisté, ils ont crié « Crucifie-le, crucifie-le !» Donc, ils sont bien là, responsables. Et pourtant, il dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment est-ce que c'est possible, ça? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ignoraient leurs actes, hein, mais ça veut dire qu'ils ne réalisaient pas pleinement ce qu'ils étaient en train de faire. En fait, quand il regardait Jésus, il voyait un homme, il voyait un problème, il voyait quelqu'un éliminé, mais il ne voyait pas en Jésus le Fils de Dieu. Il ne comprenait pas qu'ils étaient en train de rejeter le Messie, celui qu'ils attendaient. Il y avait un aveuglement spirituel. Et c'est ce que dira plus tard Pierre dans le livre des Actes. Il dit « Je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs ». Et donc on voit que même ceux qui ont agi en toute bonne conscience, ils ignoraient vraiment qui était cet homme. En tout cas, c'était pas celui qu'ils attendaient. Et donc ils sont à la fois coupables et en même temps ils sont aveuglés. Et au milieu de cela, Jésus va prier pour eux. Il minimise pas leurs péchés, hein, mais il intercède malgré leurs péchés. Et c'est peut-être ça le plus bouleversant. Ça vous a jamais étonné cette prière de Jésus quand il dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent » Ben, il l'a démontré. En fait, c'est ça. Ça paraît incroyable de dire ça. Eh ben oui, le chrétien, il est capable de faire ça. Il doit se défendre dans un procès. Hein, attention, nous, on n'a pas à accomplir une parole déjà écrite. Donc si on est accusé à tort, on doit se défendre, d'accord ? Mais parfois, il faut se taire. Et il faut prier pour nos adversaires. Parce que des fois, on ne peut rien faire. Jésus était cloué. Donc, il ne prie pas pour des gens qui sont en train de se repentir. Il prie pour des gens qui sont en train de le rejeter. Et c'est là où on voit la grâce de Dieu. Parce que nous, si quelqu'un nous réclamait l'indulgence, on serait bon. N'est-ce pas ? Avec notre petite bonté humaine, on lui dirait « Ok, ça va, allez, je te lâche. » Mais là, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas en train de lui dire « Pitié, Jésus !» Non, non, non. « Crucifie-le, Père, pardonne-leur. Crucifie-le, Père, pardonne-leur. » Vous avez compris comment ça marche, là ? C'est dingue quand on réfléchit à ça. Si on est honnête, on n'est pas si différent, en fait, de ces gens. Nous aussi, bien souvent, on ne réalise pas pleinement la gravité de notre péché. Ils ne réalisaient pas la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire en clouant Jésus sur la croix. Ils ne réalisaient pas la grandeur de celui qu'ils avaient offensé non plus. Et pourtant, Jésus prie. Waouh ! Ça nous amène à notre troisième question. Quels sont les liens entre la mort de Jésus et tout ce que nous avons lu jusqu'ici ? Alors là, je suis désolé si vous êtes de passage, mais je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu. Depuis la Genèse, hein, on voit l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Cette image est brisée à cause du péché. L'homme qui cherche son autonomie, donc son indépendance vis-à-vis de Dieu, il veut choisir lui-même. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça s'appelle la chute. Et donc, l'homme va se détourner de son créateur et il va y avoir des conséquences. Des conséquences, mais, donc la mort, forcément, mort, séparation d'avec Dieu, donc mort spirituelle et plus tard, mort physique. Donc, ça, c'est le processus qui rentre en Genèse chapitre 3. Mais, si vous lisez bien l'évangile, oui, on pourrait presque le dire, mais Genèse chapitre 3, vous allez voir deux choses. La première, c'est que Dieu, dans sa grâce, vient couvrir la nudité d'Adam et Ève. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'il fait? Un sacrifice. Premier sacrifice de l'histoire, c'est Dieu qui le fait. Il vient couvrir leur nudité et il donne une petite touche d'espérance en disant à Ève, par ta descendance va être victorieuse sur le diable à un moment donné. Le serpent va lui mordre le talon, mais lui va t'écraser la tête. Et là on se dit, waouh, il y a une touche d'espérance, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. À la lumière de Luc 23, on le sait. Jésus va être vraiment blessé au talon. Mais c'est lui qui va porter la solution. Et puis, si on parcourt ce qu'on a fait jusqu'ici, on arrive à Abraham, là encore un autre sacrifice, et Dieu pourvoit une fois de plus au dernier moment. Il devait sacrifier son propre fils, et Dieu va pourvoir par un bélier qui se bloque les cornes dans un buisson. Et c'est Dieu qui pourvoit une fois de plus. Mais vous voyez, il amorce ces choses. Et puis ensuite, on arrive à Exode 20, où Dieu va révéler sa volonté, mais en même temps nous montrer qu'on est incapable d'obéir à la loi parfaitement. C'est cette ambiguïté des radars sur la route. Ils sont là et on se dit qu'on est protégé. Ben non, c'est pas pour ça qu'on va devenir de meilleurs conducteurs. Alors ça va nous cadrer, mais on restera de toute façon incapable d'obéir parfaitement à cette loi. Et c'est ce qu'il veut nous révéler. Et donc, il va nous donner une autre promesse en Jérémie 31, la promesse de changer notre cœur, qui est un cœur de pierre, dur, éloigné de Dieu, endurci par le péché. Et il va transformer ce cœur en un cœur de chair, où il va graver sa loi à l'intérieur. Et ensuite, on arrive à Ésaïe 53, où il va annoncer ce sauveur, ce rédempteur, ce libérateur, mais un Messie qui souffre. Et on a lu un des extraits là, qui fait partie de la mission du Messie, de la solution. Et donc, ensuite, on a vu qui était Jésus, on a vu ses miracles, on a vu son autorité aussi dans le temple. On l'a vu faire des miracles avec les noces de Cana et d'autres. Et puis, on arrive ici, où tout s'accomplit. Enfin. Et donc, vous voyez, maintenant, on arrive au bout, là. On arrive au bout de l'histoire. Jésus, alors pas totalement, parce qu'il y a encore un autre événement qui va venir après celui-là, mais Jésus le dit lui-même, tout est accompli. Tout est accompli. Il va jusqu'au bout maîtriser la situation, parce que c'est lui qui va donner, il va même rendre son souffle à Dieu. C'est lui qui le fait. Vous voyez, il maîtrise même sa mort jusqu'au dernier souffle. Alors, ce qu'on voit à la croix, c'est pas seulement la mort d'un homme, mais c'est tout un plan de rédemption qui va s'accomplir. C'est la justice de Dieu qui est satisfaite. C'est le péché qui est réellement traité, le pardon qui est rendu possible. Et ça, ça change complètement notre lecture du texte. Et c'est plus seulement une injustice qui nous révolte, c'est un sacrifice qui nous sauve. Et ça nous amène à la quatrième question. Quel sentiment vous inspire cet événement? Personnellement, lorsque j'ai lu ce chapitre-là, le chapitre 23 de l'évangile de Luc, je peux dire que c'est ce qui m'a le plus bouleversé dans ma vie. En tout cas, la première fois que j'ai lu la Bible. Quand je suis arrivé au chapitre 23 et que j'ai lu le texte qu'on a lu tout à l'heure, je me suis mis à pleurer. Et si vous me connaissez, vous savez que je pleure quasiment jamais. Je suis pas une pleurnicheuse. Avant en tout cas, ce jour-là, quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais non, c'est quoi? Mais c'est injuste. Et quand j'ai vu Toutes ces paroles de Hérode et Pilate qui disaient, mais il a rien fait, non, on peut pas l'accuser, il peut pas être condamné, en tout cas pas chez nous. Et que eux réclamaient sa mort alors qu'il avait fait que du bien autour de lui, qu'il avait guéri des foules, qu'il avait nourri des foules, qu'il avait encouragé, relevé des gens, rendu la vue à des aveugles, redonné de l'ouïe, redonné des jambes à des gens qui étaient paralysés. En fait, Jésus, il a fait tellement de bonnes choses et ils sont là, crucifie-le. Wow. Moi, j'étais écœuré quand je suis arrivé à ce texte-là et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé quand je suis arrivé au chapitre 23. Alors oui, ce texte peut nous faire pleurer, mais pas seulement de tristesse. En fait, il devrait nous amener plus loin, nous amener à prendre conscience de notre propre péché. Parce que, en fait, Jésus, il est mort pour ça. Il est mort pour le péché des humains, il a pris le péché sur lui, mais en même temps, il a pris le mien. Et donc, vous voyez, cette tristesse de voir un innocent mourir, j'ai en même temps de la joie parce que je vois qu'il est mort, mais pas pour rien, il est mort aussi pour moi. Et donc, c'est pas seulement une injustice historique, c'est aussi à cause de notre péché que Jésus était là sur cette croix, à cause de mon péché. Et je ne sais pas si tu peux dire cette phrase, c'est à cause de mon péché que Jésus était là. Est-ce que tu arrives à dire cette phrase? Si tu le fais, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te le dit et qui te donne cette capacité. Je ne connais pas un non-chrétien qui est capable de dire ça. Oui, Jésus, il est mort sur cette croix pour mon péché. Vous savez, on est une église, et donc on pourrait penser que Jésus, il est venu sauver des croyants. Oui, et c'est le cas. Et on doit vivre en communauté, on doit refléter la communauté. Ça, c'est la gloire de l'Évangile, la communauté. Mais elle passe par des individus. On ne peut pas être sauvé en collectivité. On passe un par un dans le royaume de Dieu. Il y a une porte étroite. C'est pas un grand portail, c'est une porte étroite. Et chacun passe à genoux en reconnaissant ce que Jésus a fait pour lui. Et donc la question ce matin que je te pose, est-ce que tu peux dire que Jésus est mort pour moi, pour mon péché? Parce que quand il était sur la croix, c'est ce qu'il a porté. Le péché des hommes, mais le tien aussi. Est-ce que tu peux dire oui, Jésus, il est mort pour moi? Donc ça, c'est la première des choses que je vois comme sentiment qui m'inspire ici. La deuxième, c'est mesurer l'amour de Dieu. En fait, il n'a rien fait. Il le fait volontairement. Il ne le fait pas pour nos beaux yeux, pour nos beaux actes, parce qu'on n'a pas fait grand-chose, et on va le voir dans le texte d'après. Et la troisième chose, ben moi, je dirais que ça nous inspire à être reconnaissants. Parce que ce qu'il a fait, ça ne doit pas nous laisser indifférents. Si ça te laisse indifférent et que tu restes sur ta chaise en disant « Ah, c'est super, il est mort Jésus pour mon péché. » Ok. Si ça ne fait que ça, c'est que tu n'as pas compris en fait. Jésus, là, il est réellement mort pour ton péché et ça te donne un accès particulier à sa présence, à une éternité dans la présence de Dieu. Et là, tu peux commencer cette relation que lui, il avait au début avec les humains, qui a été brouillé par le péché. Grâce à Jésus, il vient contrer cette tendance et il nous donne cette capacité de nous relier de nouveau avec lui. Et aujourd'hui, on peut tous, là où nous sommes, quel que soit le lieu, quand vous êtes au travail, quand vous allez au travail, dans votre voiture, quand vous êtes sous votre douche, quand vous êtes dans votre lit avant de vous endormir, vous pouvez vous adresser à Dieu et vous avez un accès direct. Grâce à ce qu'il a fait sur la croix. Il a pris le tonnerre, la colère de Dieu sur lui à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé réellement. Alors je ne sais pas si vous êtes bouleversé, mais en tout cas moi je suis bouleversé par ce qui se passe. Et donc on va aller progressivement maintenant, on va écouter la suite du texte au verset 32, on traitera les quatre autres questions.
Qui devait être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit,
pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant
« Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. »
Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. »
Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant
« Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi !»
Mais l'autre le reprenait et disait
« N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. »
Et il dit à Jésus
« Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. »
« Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte.
« Père, je remets mon esprit entre tes mains. »
Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant
« Certainement, cet homme était juste. »
Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi.
Voilà la fin du texte qu'on lit aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Alors je ne vais pas m'étendre sur cette question qui vient, la cinquième, pour la bonne raison que j'ai prêché il n'y a pas si longtemps sur le brigand sur la croix. Mais quand même, si vous êtes là de passage, on peut au moins donner quelques éléments de réponse. Comment ce que Jésus vit affecte-t-il l'un des deux brigands? Quelle est la promesse que Jésus fait à ce brigand et mérite-t-il cette promesse? Donc, plusieurs questions ici. Alors, on voit qu'aux côtés de Jésus, il y a deux hommes qui sont crucifiés. Et c'était des hommes qui étaient coupables, parce que les Romains ne condamnaient pas des innocents. À part dans le cas de Jésus, mais ça, ça reste exceptionnel. Et on voit que finalement, c'était un procès truqué, parce que même innocents, ils l'ont fait condamner. Et donc, on peut dire qu'à côté de Jésus, il y avait deux coupables, deux vies brisées, deux condamnations méritées. Et pourtant, vous avez dû remarquer deux réactions complètement différentes, on va dire même diamétralement opposées. Il y en a un qui continue d'insulter Jésus. Hein. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Donc là, on voit un rejet. Et puis, on a l'autre brigand qui lui dit absolument pas la même chose. Il dit, mais pour nous, c'est justice, mais celui-ci n'a rien fait de mal. En fait, cet homme, le deuxième, reconnaît Deux choses que beaucoup refusent encore aujourd'hui, c'est qu'il reconnaît son propre péché et il reconnaît l'innocence de Jésus. Mais il va encore plus loin. Regardez au verset 42, il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Autrement dit, il lui dit « Je sais que tu es roi. Je sais que la mort n'est pas la fin pour toi et je n'ai plus que toi comme espoir ». Et ça, c'est une foi incroyable, surtout dans ce contexte. Et la réponse de Jésus, elle est tout aussi bouleversante, c'est qu'il lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Pas demain, pas après un temps d'épreuve, quand tu auras fait tes preuves, aujourd'hui. Et en fait, cet homme n'avait absolument rien à offrir. Il ne pouvait pas réparer son passé, il ne pouvait pas faire de bonnes œuvres, il ne pouvait même pas descendre de la croix. Et pourtant, Jésus lui ouvre le paradis. Est-ce que cet homme mérite cette promesse ? Alors soyons clairs, non, il ne la mérite absolument pas. Et c'est justement ça qui est puissant. C'est que ce brigand est une démonstration vivante que le salut n'est pas une récompense, mais c'est un cadeau offert par Dieu à ceux qui ne le méritent pas. C'est ça la grâce, une faveur immérité, un cadeau que l'on nous offre alors qu'on vient de faire des bêtises. Et ça, les enfants savent ce que c'est. Pas les adultes. En fait, si on a cette histoire, c'est pour nous montrer la grâce de Jésus, mais c'est aussi pour savoir dans lequel des deux vous allez vous reconnaître. Jésus les a pas mis là. Enfin, Dieu n'a pas mis souverainement ces deux personnages comme ça, par hasard. Il y en a qui vont voir Jésus, qui vont voir ses miracles et qui vont le rejeter. Et puis il y en a d'autres qui vont voir Jésus alors qu'ils sont pécheurs et qui vont reconnaître leur propre péché. Mais vous avez vu qu'il a reconnu ce que Jésus était, qui il était, ce roi. Et c'était son seul espoir. Eh bien, Jésus, ce matin, veut nous faire arriver à cette conclusion-là. Peut-être que tu t'accroches encore à des assurances-vie, à ta mutuelle santé, ou à ton compte en banque, je ne sais pas. Mais quand ce brigand sur la croix, il n'y a plus rien qui fonctionne, là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et en fait, il faudrait presque qu'on arrive et qu'on n'ait plus rien pour réaliser et qu'on fasse un vrai choix à un moment donné. Moi, je vous le souhaite, honnêtement. N'attendez pas d'être crucifié. N'attendez pas le dernier moment pour vous tourner vers Dieu. Vous avez ce privilège, c'est que vous êtes décroché de cette croix et que vous pourrez encore le servir par grâce. Mais il vous demande, ce matin, comme à ce brigand, est-ce que tu reconnais qui je suis, ce que j'ai fait ? Est-ce que tu reconnais mon innocence ? Est-ce que tu reconnais ta culpabilité ? Si c'est le cas, est-ce que tu reconnais ma royauté ? Je suis au-dessus de tout. Je suis Dieu le Fils. Je suis le roi des Juifs et de l'univers. Le Seigneur des Seigneurs. C'est ça, en fait, ce que nous demande Jésus. Où le corps a-t-il été déposé ? Et là, vous avez vu, c'est assez clair. On a un gars qui s'appelle Joseph d'Arimathée qui vient réclamer le corps pour pouvoir l'enterrer dans une tombe, un tombeau plutôt, neuf. Et c'est très pragmatique, ça. C'est très concret. Et donc, on voit que Jésus, il était réellement mort. Si on le met dans une tombe, c'est que Jésus était réellement mort. Et donc il a été mis dans un tombeau où personne n'avait jamais été. Ça veut dire que ce Jésus, il a vraiment été descendu de la croix, qu'il a vraiment été placé dans un tombeau, qu'il est vraiment mort. On n'a pas cet exemple-là où c'est dans un autre évangile, c'est Jean, je crois, où un des soldats romains qui était un professionnel va lui enfoncer une lance sur le côté, il y a de l'eau qui va couler. Et en fait, qui est la preuve ultime qu'il était déjà mort. Donc, oui, le corps de Jésus était vrai et il a été déposé dans un vrai tombeau. À votre avis, quelle a été la réaction des disciples à la mort de Jésus ? Alors, il n'y a pas que ce texte-là, mais je pense que ça devait se bousculer dans leur petite tête. Leur monde a dû s'écrouler à ce moment-là. Le mien se serait écroulé, parce qu'ils suivaient Jésus, et quand on lit le début des actes, et ça c'est dommage parce qu'on n'a pas tous ces textes-là, mais en fait, on voit qu'ils n'avaient pas compris. Ils attendaient encore un messie politique comme les autres juifs, malgré que Jésus avait dit qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir, qu'il allait être trahi, qu'il devait mourir, qu'il allait même ressusciter. Tout ça se passe sous leurs yeux. Ils n'ont pas capté. En tout cas, à ce moment-là, ils ont dû perdre espoir. Bien sûr, bouleversés. Peut-être qu'ils ont même dit, mais en fait, on s'est fait arnaquer. On s'est fait duper, on s'est trompé. Et honnêtement, je pense que j'aurais réagi comme eux. Mais ça, c'est parce qu'ils ne voient pas encore le bout de l'histoire. Ils n'ont pas fait ces liens que nous, on a fait. Hein, ils n'avaient pas le manuel de la grande histoire. Et donc, c'était compliqué de faire les bouts. Et puis, du coup, ah, ma main, si ce n'est pas le Messie, qui sait, vous voyez. Et la dernière question. Le plan de Dieu est-il réellement anéanti par la mort de Jésus? Et honnêtement, quand on arrive là, c'est ce que pensaient tous les apôtres. D'ailleurs, ils se sont terrés comme des lapins. Et quand je dis terrés, c'est le mot qui est utilisé. Ils se sont cachés, enfouis, ils se sont mis sous la couette. Ouais. Ils voulaient plus rien avoir, ils avaient presque honte. Jusqu'à ce qu'une des femmes aille au tombeau et qu'elle revienne en courant et qu'elle dise « Jésus est ressuscité !» Mais ça, c'est pour la prochaine fois. En fait, lorsque Jésus meurt et qu'il est au tombeau, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début. C'est le début. Mais ça, il faut venir pour dimanche prochain, pour la suite.